Spécialiste de rien, mais flâneur invétéré, il est comme vous, tout l'intéresse.
C'est peut-être l'un des philosophes les plus commentés au monde. Ce style de philosophie portait sur des objets les plus triviaux, sur les manifestations de la culture populaire ou de la culture de masse. Voilà, s'intéresser aux lobbies d'hôtels, aux fêtes foraines, à l'architecture de verre, au cinéma, à la photographie. Un champ d'exploration assez aventureux.
Prénom ?
Walter.
Nom ?
Benjamin.
Date de naissance ?
15 juillet 1892, d'une famille juive berlinoise qui avait tout fait pour devenir parfaitement allemande.
Études.
Marquée à partir du moment où commence la guerre de 14 par le refus de suivre des maîtres. Il renoncera à déposer sa thèse d'État, qu'il fera cependant paraître en livre, l'origine baroque du drame allemand. L'université ne l'aima pas plus qu'il ne l'estima.
Des ressources.
Mince, aléatoire. Ses seules fiches de paye régulières sont venues, entre 1929 et 1932, de la radio, qu'il ne considérait pas comme un simple métier alimentaire. Au moment de la montée du nazisme, il se retrouve dans une situation très précaire.
Exil.
Paris, 1933, pour une série d'années difficiles. Mais il a cependant aimé Paris, à la manière de Baudelaire, pour la flânerie, pour les passages parisiens.
Ses amitiés.
Nombreuses, diverses. Il sera toujours comme tiraillé par un champ de force entre Scholem, le grand philosophe juif de la Kabbale, Brecht, le poète populaire, Adorno, le marxiste, hétérodoxe, Arendt, l'antitotalitaire.
Ses œuvres
ou longtemps éparses, ce qui a été paradoxalement une chance parce que chacun cueillait les fruits de son goût et citait les fragments comme autant de chapitres d'une Bible intellectuelle portative. Outre Paris au XIXe siècle, on retiendra la petite histoire de la photo et l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité. Benjamin, c'est un pionnier de l'analyse des industries culturelles.
Sa mort.
L'été 1940 le voit en quête d'un visa. Il en décroche un pour les États-Unis. Il parvient à passer les Pyrénées par un chemin qui porte maintenant son nom. Apprenant à Portbou, en Espagne, qu'il risque d'être reconduit à la frontière, il préfère se suicider le 26 septembre 1940.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Eh bien, commençons par la fin. Muni de ce visa pour les États-Unis, Benjamin avait donc confié son sort à Lisa Fitko. C'était une compatriote militante anti-nazie qui ouvrait un passage par un chemin qui lui permit de rejoindre du côté espagnol, donc la petite ville de Portbou, en Catalogne du Nord. Le livre qu'a consacré Lisa Fitko à cette équipée pyrénéenne vient tout juste d'être réédité.
Je me suis aperçue qu'il portait cette serviette noire qui paraissait assez lourde. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez enlevé ça? Et alors, c'est alors qu'il m'a expliqué que le contenu, c'est son dernier manuscrit. Et deuxièmement, c'était sa vie, qu'il ne voulait pas tomber dans les mains de la Gestapo.
Cette sacoche noire a disparu. Personne ne sait où elle se trouve.
Ça a disparu. Il y a seulement une lettre de l'administration de Portbou où il registre les choses qu'on a trouvées sur Benjamin quand il était mort. C'était une pipe, des lunettes et des choses comme quelque chose comme ça. Et puis on dit une sacoche contenant des papiers d'un contenu inconnu.
Mais il portait aussi une dose de morphine dont il s'est servi quand il a appris que la police espagnole pouvait le réexpédier de l'autre côté. C'était une nouvelle procédure qui venait de s'ajouter aux anciennes, c'en était trop.
Il est monté dans sa chambre et a avalé une forte quantité de morphine. Au petit matin, il a fait appeler une de ses amies avec qui il avait traversé les Pyrénées. Il lui a avoué son geste et lui a remis deux lettres adressées à des proches. Et il a perdu connaissance. Le médecin a constaté une apoplexie foudroyante et l'a déclaré intransportable. Peu après, il mourut.
et 15 kilomètres du chemin transfrontalier, discrètement désigné d'abord comme la route F du nom de Lisa Fitko, sont devenus le chemin Walter Benjamin. Il aurait suffi d'un jour, il aurait compris que le règlement espagnol supplémentaire ne serait pas appliqué. Mais enfin, depuis longtemps, il était persuadé que cela finirait mal. Il ne pouvait s'acclimater au temps sombre. Pierre Bourets, notre premier interlocuteur, cite la lettre qu'Anna Arendt, qui réussit de son côté à passer aux États-Unis, envoya à leur ami commun, le philosophe Gershom Scholem, qui lui avait rejoint Jérusalem depuis longtemps.
Arendt insiste beaucoup dans le très beau texte qu'elle lui a consacré. Elle dit de lui ce que, je crois, Jacques Rivière disait de Proust. Il est mort de ne pas savoir ouvrir une fenêtre, de ne pas savoir allumer le feu. Donc il y a un peu, y compris chez Arendt, il y a un peu cette idée qu'il est une espèce de mélange de Proust et de Kafka, de quelqu'un qui, en tout cas de gens qui ne savent pas s'orienter dans le monde et qui n'ont pas réussi à se faire des repères. Bon, il est clair qu'il était une personnalité mélancolique. Le thème de la mélancolie l'a intéressé. C'était un personnage saturnien.
Dans un livre important, Pierre Bourets a rangé Benjamin parmi les grands témoins du futur. Le futur commence, comme chez Proust, par la remémoration de la vie passée. Alors comment Benjamin a-t-il fait la sienne le 26 septembre 1940 ? Sans doute a-t-il mis son enfance à la première place. Ce moment où il a commencé à tenter de s'arranger avec la vie des générations précédentes.
Alors il y a ces magnifiques textes autobiographiques, Sens unique, Enfance berlinoise, qui sont des textes merveilleux sur le merveilleux de l'enfance, par exemple. Des textes dans lesquels il raconte, au fond, la manière dont un enfant déchiffre le monde avec des choses qui peuvent nous paraître aussi étranges que le monstre qu'est le téléphone au bout du couloir, la découverte de la sexualité dans des conditions un peu improbables, la boîte à ouvrage de la mère, la commode avec les chaussettes, le fait que pour lui, la façon dont on prend deux chaussettes et dont il faut les tourner pour en faire une sorte de boule pour les ranger dans le tiroir, pour lui, ça c'est justement un peu la magie de l'enfance. Et ses textes sont très beaux parce que justement, ils essayent de capturer ce sentiment qu'il avait de la fragilité du monde, de la difficulté pour l'enfant de se repérer dans le monde des adultes et donc de s'attacher, oui, à la boîte à ouvrage de la mère et puis aussi au personnage de son environnement, la grand-tante qui connaît mieux que quiconque le vieux Berlin et qui est capable de l'orienter dans le vieux Berlin que ses propres parents, par exemple, ne sont pas capables de lui faire déchiffrer. Donc tout ça est superbe parce que ça permet à la fois de réfléchir à sa propre biographie, mais aussi à tout un monde, au monde de Berlin dans ses années de son enfance à lui, c'est-à-dire les années d'avant la Première Guerre mondiale.
Les rues de Berlin, les dialectes.
Les rues de Berlin, les dialectes.
Les deux communautés juives aussi, qui s'ignorent, suivant deux courants différents. Le courant séculier, auquel appartient la famille de Benjamin, le courant bordé par la tradition, dont relève Gershom Scholem, avec lequel Benjamin se lie dès 1915. Berlin, qu'après des études supérieures décevantes, il retrouve en 1920 et qui va vivre dorénavant au rythme saccadé de la République de Weimar, une métropole dont le philosophe de la ville, Philippe Simet, deuxième interlocuteur, est persuadé qu'elle signifie à elle seule le XXe siècle.
Avant la Première Guerre mondiale, beaucoup d'observateurs des phénomènes urbains pensent en fait que la métropolisation est réversible. Un autre monde est possible, comme on a dit un moment sur la mondialisation. Et la génération de Benjamin, c'est pas le cas, en fait. La guerre a avalisé le phénomène métropolitain. La ville est le champ de bataille de la vie moderne. Et puis, il faut se figurer aussi que, au retour de la guerre, on a vu revenir tout un tas de mutilés. Qui vont finalement ressembler aussi à ceux qui se trouvent dans les usines, ceux qui perdent un bras, une main, une jambe, voilà, mutilés par les machines. Donc c'est le boom de l'industrie de la prothèse. Donc on a aussi cette image d'une humanité cyborg.
1921, c'est le robot qui... Le mot robot qui est inventé.
C'est le mot robot, mais...
Et le robot, il naît aussi de la guerre, enfin.
Le robot naît de la guerre, ouais. mais on a ces images chez Autodix, chez Georges Grotz, mais aussi chez les dadaïstes, chez Raoul Haussmann. du corps qui est un mélange d'organique et de mécanique. Le monde s'était incroyablement complexifié avec la multiplication du nombre de personnes, du trafic automobile, de l'électrification des réseaux. Il fallait avoir une attention de tous les instants, ne serait-ce que pour traverser la rue. Donc il a cherché à montrer comment cette attention pouvait s'exercer et dans quel type de situation. Et je crois que cette idée-là, on peut la reprendre aujourd'hui pour analyser ce à quoi nous sommes confrontés, c'est-à-dire la multiplication des sollicitations, notamment sur Internet, à travers les mails, à travers le régime des images. Aujourd'hui, on est conscient qu'il y a un enjeu de captation de l'attention. Comment faire dans des métropoles, quand les citadines, les citadins sont sollicités de toutes parts? D'abord par leur environnement proche, les voitures, les piétons, les vélos, les trottinettes, etc. Comment attirer l'attention, comment capter l'attention sur une source particulière. Donc beaucoup d'énergie et de stratégie se développent pour attirer, capter, retenir le plus longtemps possible notre attention. Et les écrans numériques dans le métro sont une des stratégies qui a été développée. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les années 30, on avait exactement ces mêmes stratégies. On voyait bien que les citadins qui étaient hyper sollicités par leur environnement n'arrivaient plus à porter attention aux messages publicitaires. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé, par exemple, à développer l'usage du néon, des publicités avec des néons. Et donc, on avait un environnement visuel qui était d'une incroyable complexité, que les Berlinois, pour parler d'eux, vivaient de façon traumatique parce qu'ils voyaient, finalement, dans ces stimulations lumineuses, des assauts de leur psychisme qui leur rappelaient, en fait, les assauts de la Grande Guerre. Il y a une collusion entre un imaginaire du front dominé par des explosions et le feu d'artifice permanent qui pouvait avoir lieu de jour comme de nuit dans les rues de Berlin. Mais dans le fond, la problématique du métro aujourd'hui, des écrans numériques dans le métro et des publicités par néon dans les années 30 relèvent des mêmes stratégies de captation de l'attention.
Alors si on veut décrire cette ville contemporaine, il faut penser au cinéma avec ses effets de montage, au film de Charlot. Et s'il faut résumer la ville contemporaine, il faut penser à la fête foraine, celle qu'on retrouve sur scène dans le ballet russe Petrouchka ou dans Casimir et Caroline de l'Autrichien Horvat.
La fête foraine, c'est probablement le lieu qui m'a le plus intéressé chez Benjamin. C'est l'espace qui reproduit le mieux l'expérience traumatique de l'espace métropolitain. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que disaient les Berlinois de leur ville, le chaos permanent, le tourbillon, l'hypersollicitation sensorielle, l'excitation extrême, le sentiment du danger, eh bien c'est tout cela qu'on retrouve dans la fête foraine. Alors, pourquoi y vont-ils ? Pour réitérer cette expérience du choc qu'ils subissent quotidiennement, mais de façon volontaire et ludique. Et donc, il y a dans cette exposition volontaire à des chocs qu'on peut aisément considérer comme traumatisants, les montagnes russes par exemple, il y a une forme d'acclimatation qui porte en elle un espoir d'émancipation.
Les contes qu'écrit Benjamin se situent souvent dans des fêtes foraines. Le personnage principal qui lui ressemble s'appelle Casperle. C'est un enfant inquiet de lui-même et affolé par la fête.
Le manège ne me tente plus du tout. Écoutons plutôt ce qui se passe juste à côté. Entrez, mesdames et messieurs, approchez. Ceci, mesdames et messieurs, cette simple tente est la demeure terrestre de l'esprit Lipsus Lapsus, l'invisible, l'omniscient, le grand magicien sorcier qui se fera un honneur et un plaisir, mesdames et messieurs, de vous prédire votre cher et agréable avenir. Demandez-lui conseil, mesdames et messieurs. Lipsus Lapsus interprète vos rêves et fait vos devoirs scolaires. Lipsus Lapsus, c'est sur ma vie future que je voudrais t'interroger. Quel chemin emprunter pour ne pas le regretter par la suite? Et mes capacités, comment faire pour les connaître? Ne faut-il pas mieux étudier la sagesse universelle? Car sans la philosophie, qu'est-ce qu'on est? Mais ce faisant, on meurt de faim. Il paraît que le génie n'assure pas le nécessaire. Que faire alors pour trouver de l'argent sans le regretter?
En effet, les questions aux magiciens semblent justifiées. D'ailleurs, qu'est-ce que Benjamin lui-même va bien pouvoir faire pour gagner sa vie, Monsieur Lebrun?
Ben oui, parce que une première thèse, sans thèse d'état ni habilitation, c'est comme un essai non transformé. L'accès à l'enseignement universitaire, qui l'aurait d'ailleurs ennuyé, lui est fermé. Oui, de quelle spécialité va-t-il pouvoir se prévaloir? Philippe Simet.
C'est un spécialiste de rien et peut-être c'est ce qui fait sa grande force, la capacité de se saisir d'objets divers et somme toute protéiformes. Et dans l'analyse qu'il peut en faire, là aussi on ne sait jamais exactement ce qu'il raconte parce que les textes annoncent une couleur et au détour des phrases, au détour des paragraphes, eh bien il nous parle d'autre chose. Il va parler de la photographie, mais il va développer une théorie de l'aura. Il va parler de la disparition du compteur, mais il va écrire sur le roman et la presse. Donc, les textes sont toujours des textes à tiroir, dans lesquels on trouve des pépites conceptuelles dont chacun peut s'emparer pour faire son miel et pour, dans le fond, je crois, se les approprier, les cannibaliser, les transporter sur un autre territoire et les faire germer de façon inédite. Il n'est pas prévisible et la manière dont sa pensée a été ressaisie n'était pas non plus prévisible. C'est-à-dire, c'est un penseur fertile à tout point de vue. Il est fertile par sa pensée, mais il a aussi été fertile par sa capacité à offrir à ses lecteurs des outils pour interroger leurs objets spécifiques de réflexion de façon assez inédite.
Flâneur, glaneur, il glane ce qui est délaissé.
Une des choses que j'admire le plus chez Benjamin, c'est d'avoir fait de la philosophie en mobilisant ce que les philosophes jetaient dans leurs poubelles. Voilà, les objets du quotidien, les formes qu'a prises la culture de masse, l'architecture qui était en train de se développer. Et donc, oui, à mes étudiants, je leur dis que pour faire de l'architecture, faut pas simplement regarder l'histoire de l'architecture, mais il faut regarder ce qui se passe sur Twitter, il faut regarder la manière dont on produit des images sur YouTube, il faut s'intéresser aux blockbusters, il faut s'intéresser à l'ensemble des phénomènes qui sont là autour de nous et qui nous donnent des clés d'interprétation pour comprendre notre présent.
N'insiste pas, Natacha. Tu me connais assez pour savoir que Lupin ne fait jamais demi-tour.
Il ne s'agit pas de reculer, patron. Il s'agit de ne pas tenter le diable. Ce que vous allez faire à Reims, c'est tellement dangereux que...
Tais-toi et accélère.
Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler.
Vous entrez balayeur. Vous sortez millionnaire. Des questions?
Oui.
Et pendant que nous, on risque notre peau, toi, tu fais quoi?
Moi, Moi, j'achète le collier.
Moi, à ton âge, j'aimais bien lire. C'est ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça.
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur.
Benjamin, pionnier de l'étude des industries culturelles, s'il y en a une qui illustre la métamorphose perpétuelle de ce domaine, ben c'est Arsène Lupin. On a entendu la version époque d'écrière, années 70, et puis maintenant de la télé. Lupin, on le sait, est passé sur Netflix avec Omar Sy dans le rôle principal. Oui, Benjamin, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la transformation de toutes les conditions de production. On va revenir en arrière dans le passé avec le texte écrit. Il se demande sur quoi au Moyen-Âge on pouvait bien écrire, comment on copiait, comment on enluminait. La lecture des précieux manuscrits se faisait debout, devant un lutrin, à voix haute souvent. Puis on est venu à l'imprimerie, on a davantage lu à l'horizontale et en silence. Et puis au temps des écrans publicitaires et des écrans d'ordinateur, retour à la verticalité. Autre histoire, celle du passage de l'œuvre dotée d'une autorité à l'œuvre reproduite. C'est tout le propos de son texte peut-être le plus célèbre, l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité. Au départ, l'œuvre pouvait être produite dans un rituel, l'icône par exemple. Cette œuvre unique tirait sa force des yeux de ses regardeurs, des yeux qui n'ont cessé de la regarder. On a entendu le mot d'aura, c'est ça. Et puis est venue la possibilité de la reproduire. Dernier interlocuteur, Bruno Tackels. Il était en France l'un des grands spécialistes de Benjamin. Je dis était parce qu'on verra plus tard qu'il vit loin d'elle aujourd'hui.
La grande découverte de Benjamin dans le fameux essai sur l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique, c'est que finalement, avant, on a toujours reproduit des objets. L'idée de la série est vieille comme le monde. Mais ce qui est absolument nouveau dans notre modernité, c'est qu'on est capable de reproduire, non pas en série, c'est-à-dire en se rapprochant au maximum de l'original, mais en ayant une matrice qui permet d'avoir toujours l'original à disposition. Finalement, c'est ça la grande invention qui commence avec la photographie, le cinéma, la radio, et qui bien évidemment continue avec le monde audiovisuel et avec aujourd'hui le monde technologique, le monde digital. Il n'y a pas d'original. Au fond, la grande découverte de Benjamin, c'est qu'on arrive à faire œuvre sans qu'il n'y ait plus cette idée de l'original et donc de sa copie. On est dans un monde de la généralisation de l'original, en quelque sorte.
Vous avez entendu comme ce son est curieux, produit un effet de caverne. Ben vous pourriez devenir producteur à Radio France, comme Bruno Tackels l'a été. Il sait mieux que quiconque que la radio peut rendre présent tel ou tel objet là où il n'aurait jamais été. Benjamin a été un pionnier de la radio. Les possibilités qu'elle offrait l'ont passionné. Et toujours attentif à l'enfance, il a essayé de se glisser dans le regard des petits pour parvenir à la mise en onde de contes pour enfants. Alors de cette mise en onde ne subsistent que deux épaves d'enregistrement, mais les textes conservés permettent des reconstitutions de ce qu'on hésiterait maintenant à appeler les originaux. Nous sommes toujours avec le petit Casperle, et l'interlocuteur en face, c'est monsieur Dupont la Gueule, qui, comme son nom l'indique, est un speaker de la radio.
Bouclez tout le zoo, Polichinelle doit y être, appelez la police, cette fois on l'aura certainement. Oh là les enfants, où est Polichinelle?
Cet horrible Dupont la Gueule, le revoilà avec sa bande. Ils sont revenus, vite les salauds. Je n'ai pas eu une minute tranquille depuis que je me suis commis avec la radio. J'aurais dû me méfier. Maintenant, comment faire? Tiens, que vois-je? La cage au lion. Pouchy ne m'a-t-elle pas dit hier qu'ils y ont mis un lion empaillé? Empaillé ou vivant, ça vaut toujours mieux que d'avoir cette bande de vauriens aux trousses. Courage, Polichinelle. Entrons et fermons la porte derrière nous.
Ce que dit Benjamin aux enfants derrière le micro, ça ne correspond pas nécessairement à ce qu'on leur dit à l'école. C'est ce qu'on dit dans le vaste monde. La radio, pour lui, c'est comme un coquillage qu'on se colle à l'oreille pour écouter l'humanité. Il a du mal avec l'idée d'une radio qui serait seulement un émetteur, ou pire encore, un haut-parleur tonitruant. On connaît la méthode des nazis, sans les haut-parleurs, on ne mène pas un peuple à la guerre. Benjamin, lui, rêve d'une radio dont l'auditeur-récepteur ne serait pas réduit à un rôle passif. Je disais que Bruno Taquels avait quitté la France. Il vous parle maintenant à 10 000 kilomètres de Paris, en Colombie, dans une finca d'une vallée andine, à 140 kilomètres de Bogota. Les propos que vous allez entendre sont portés depuis très loin par la magie du numérique.
Quand mes premiers livres sont arrivés dans ma finca, sur mes hauts plateaux, mon voisin, qui est un paysan né dans la vallée, qui est né là et qui mourra là, a vu les livres et il m'a raconté que lui n'avait pas de livres, mais qu'il avait tous les catalogues, tous les livrets de la radio Sutatensa. La radio Sutatensa est une radio qui a été initiée par l'Église catholique, c'est une radio à message, alors pour le coup, mais qui a eu l'intelligence de s'ouvrir au peuple et de se considérer finalement comme l'école du peuple. Le peuple ne va pas à l'école, les enfants de paysans ne vont pas à l'école, mais ils ont une radio. Ils peuvent avoir accès, alors non pas à la culture, et c'est tout le projet de Benjamin, mais à de l'éducation. On peut éduquer avec la radio, on peut apprendre aux gens à résoudre mieux des problèmes, du plus concret au plus compliqué. Et je crois que c'est vraiment ça que Benjamin avait en vue, c'est qu'il faut prendre les questions les unes après les autres, il faut les traduire dans le médium radiophonique, c'est ça le premier principe. Et Benjamin a vraiment pensé la radio comme un dialogue, comme une logique de voix contre voix, de logique, vraiment une logique stéréophonique, on pourrait dire. Et donc son projet, c'était de raconter vraiment les questions qui se posent à la société, de les faire vivre par des voix, et ensuite d'en penser quelque chose. Ensuite, d'engager un débat avec les auditeurs. Alors on pourrait parler de radio participative. Dans son projet à lui, c'était plutôt d'aider les gens à répondre à des questions.
Mais est-ce que ça ressemblerait d'une certaine manière à ce que faisait Brecht dans son théâtre épique quand il instituait des interruptions qui permettaient de réfléchir à la situation qu'il avait décrite avant ?
Il y a une très belle histoire que Mathias Langhoff vient de rendre publique, que je trouve très belle, qui lui vient en direct de Brecht et de Helen Weigel, c'est que Brecht, donc très proche de Benjamin, a fait peu de radio, mais le peu de radio qu'il a fait est assez exemplaire, puisqu'il s'agissait de courtes pièces, des Lehrstücke, qui étaient donc dites par les acteurs à la radio, dans le studio, mais il y avait également des chœurs qui, eux, n'étaient pas dits par les acteurs. Les acteurs se taisaient au moment du chœur, et chaque auditeur recevait avec son abonnement le texte du chœur et le lisait en direct avec les acteurs au moment précis de sa diffusion. Ça, c'est un exemple magnifique, je trouve, d'une radio totalement organique, on pourrait dire. Une radio où l'auditeur est vraiment partie prenante de la production.
Interruption, pour vous permettre de mesurer bien la situation, nous sommes dans un opéra de Brecht, Ma agonie, écrit avec Kurt Weill. Les habitants regardent un combat de boxe entre un champion de 100 kilos et un maigrichon de 50, ça va barder.
Hallo Joe!
Hallo Jim!
Schluck keinen Zahn!
Ah, halb so schlimm.
Los jetzt! Timo! Halt! Er nimmt schon! Vorsicht! Ich stürze! Füße! Nicht halten! Er sitzt! Macht nichts! Bitte! Nicht halten! Lando! Kunststück! Ja! Er spinnt schon!
France Inter. Intelligence, service.
Vous nous avez parlé de Brecht, mais qu'est-il advenu de Scholem, qui n'a pas été cité depuis longtemps, monsieur Lebrun?
Scholem, qu'il a connu en 1915 et qui est parti à Jérusalem, où il y a deux pôles. Brecht, l'ami proche, qu'il héberge plus d'une fois dans sa maison au Danemark, qui aime le voir dans son jardin lire Le Capital. « Ah, c'est bien, tu t'y mets, enfin !» lui dit-il. Et de l'autre côté, il y a Scholem, l'homme de la mystique juive, qu'il regarde comme un maître à qui il envoie tous ses textes avant publication, ce qui permettra souvent leur sauvetage, et dont il attend le jugement en tremblant. Scholem lui répète que le marxisme, c'est seulement une religion de substitution, et qu'il faut travailler avec de la vraie monnaie, et pas de la fausse. Et comme l'écartèlement de Benjamin n'est pas encore suffisant, il subit aussi l'influence d'Adorno et d'Horkheimer, qui, marxistes eux aussi, mais hétérodoxes et transplantés aux États-Unis, songent à l'y attirer. Pierre Bourette, ce qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, décrit le champ de force dans lequel se débat Benjamin.
Il était pris effectivement entre deux visions. La vision que lui proposait le matérialisme dialectique, le marxisme avec l'horizon révolutionnaire, et de l'autre côté le messianisme juif, plus tourné vers l'idée d'une irruption intempestive du Messie dans l'histoire et une interruption du cours de l'histoire. Donc c'est avec tout ce matériau-là et les personnes qui, dans son entourage, essayaient de le tirer de l'un ou de l'autre côté, que Benjamin a vécu une grande partie de sa vie.
Et un des pôles, c'est du côté du matérialisme historique, oui. Bertolt Brecht.
Oui, un des pôles, c'est Bertolt Brecht. Un des pôles, c'est Theodor Adorno et Max Horkheimer. Donc Theodor Adorno et Max Horkheimer, qui donc dirigeaient un institut de recherche sociale dans lequel ils promettaient une place à Benjamin, qui avait beaucoup de mal à se faire une place dans le monde académique, et puis qui sont partis à New York assez tôt et qui lui ont promis de le faire venir, et puis ils l'ont pas fait. Bon, là, ils ont été assez durs, y compris intellectuellement avec lui. La correspondance entre Benjamin et Adorno autour des derniers projets de Walter Benjamin, Adorno et Horkheimer ont une attitude très brutale à son égard, c'est-à-dire ils sont très intransigeants, ils essayent de vraiment lui imposer leur marxisme à eux, qui n'est pas le marxisme stalinien, qui est une version à eux du matérialisme historique, mais ils essaient de le mettre un peu dans les normes de leur vision à eux, c'est-à-dire de couper justement tout ce qui peut y avoir d'un peu métaphysique, d'un peu théologique ou tendu vers une dimension théologique dans l'œuvre de Benjamin. Ils essaient de le couper. Inversement, Scholem, très jeune, lui, a décidé que sa vocation, c'était de faire une espèce de critique interne du judaïsme qu'il trouvait devenu trop bourgeois, trop séculier, trop intégré au monde moderne. C'est là qu'il s'est construit très tôt sa vocation d'un immense érudit du judaïsme médiéval, de la Kabbale, de la tradition de la mystique juive. Donc Scholem est devenu très vite un jeune savant qui deviendra un plus grand savant sur ce pan de l'histoire juive au cours de sa vie. Il en fera sa vocation. Ça voulait dire beaucoup de choses. Hein. Ça voulait dire apprendre l'hébreu, évidemment. Apprendre l'hébreu biblique, l'hébreu médiéval, l'hébreu du Talmud, qui est un hébreu très difficile. Tout ça, ni l'un ni l'autre ne l'avait appris dans leur famille. Benjamin a résisté jusqu'au bout au simple fait d'apprendre l'hébreu.
Il n'y avait pas photo, dit Philippe Simet.
Benjamin reste un Européen et en dépit des sollicitations réitérées de Scholem pour le faire venir à Jérusalem et en lui proposant un poste d'enseignant, Benjamin est resté un Européen. Il était foncièrement un Européen et on le voit à travers ses voyages et ses portraits de villes, d'Italie, d'Espagne, Moscou, des très beaux portraits de lieux où il a aussi trouvé une forme de quiétude, notamment à Ibiza, hein. Loin de la frénésie et du chaos métropolitain que pouvait être Berlin. Mais il l'a trouvé aussi à Paris. Je crois que si Benjamin se rend à Paris, c'est précisément parce que c'est la capitale du 19e siècle.
En 1927, Benjamin avait passé déjà de nombreux mois dans notre capitale, s'échappant de la Bibliothèque nationale rue de Richelieu pour arpenter les passages alentours qui témoignent si bien du Paris du 19e. Et en 1933, l'exilé est dorénavant en séjour contraint, passant d'une adresse de hasard à une autre.
Hôtel de Berne, 37 rue de Berne, Paris 8e. Hôtel du Midi, 4 avenue du Parc Montsouris, Paris 14e. Hôtel L'Aiglon, 232 boulevard Raspail, Paris 14e. 8 avenue Charles Floquet, Paris 7e. Hôtel Littré, 9 rue Littré, Paris 6e. Hôtel Istria, 29 rue Campagne Première, Paris 14e. Hôtel Regina de Passy, 6 rue de la Tour, Paris 16e. Palace Hôtel, 1 rue du Four, Paris 6e. 25 rue Jasmin, Paris 16e. Hôtel Floridor, 28 place d'Enfer Rochereau, Paris 14e. 7 Villa Robert Lindé, Paris 15e. 23 rue Bénard, Paris 14e. Villa Nicolo, 3 rue Nicolo, Paris 16e. 1 rue du Château, Boulogne-sur-Seine. 185 rue de Javel, Paris 15e. 10 rue Dombasle, Paris 15e.
À Berlin, Benjamin avait collectionné les petites choses délaissées qu'il a presque toutes perdues dans ses pérégrinations. À Paris, il collectionne les citations. C'est la base du fameux « Paris au XIXe siècle ». Pierre Bouretz.
Ce livre, c'est 800 pages, essentiellement de citations. Hein, donc je l'ouvre au hasard. Voilà, une citation des Misérables, une citation de Rémy de Gourmont, une citation de Flaubert, des citations de Proust, des citations de catalogues d'exposition, de tout ce qui peut grappiller. Puis il y a des esquisses de développement. Donc il y a des esquisses de développement qui sont ouvertes par une citation de Engels, par exemple, hein, sur telle ou telle chose. Et puis on voit qu'il élabore à partir de ça. Mais tout ça ne va pas au-delà des notes de travail. Qu'est-ce qu'il avait, comment il aurait bouclé tout ça, on ne le sait pas. Bon, sauf qu'il y avait un texte théorique qui était demandé par l'Institut Durkheimer et Adorno pour essayer de donner une cohérence à ça autour de ce titre qui était le mot de passe du projet Paris capitale du 19e siècle. Voilà, Paris capitale du 19e siècle, ça pouvait introduire énormément de choses. Et qu'est-ce que ça aurait donné, on ne sait pas. Et alors, même chose, là on est dans un énorme matériau, des centaines et des centaines de citations. Et Benjamin avait presque théorisé la question de la citation. Les citations sont comme des voleurs de grand chemin qui m'interpellent, qui m'attrapent. C'est le texte, le fragment d'un texte qui m'attrape, moi, Walter Benjamin, et qui me force à penser. Et puis des esquisses de raisonnement, de développement, d'analyse à lui sur tel ou tel aspect. Donc, qu'est-ce qu'il en aurait fait? C'est impossible à dire. Qu'est-ce que lui voulait en faire? On ne sait pas très bien.
Mais le succès contemporain de Benjamin vient justement de cette inorganisation en système. Chacun peut flâner entre les fragments qu'il laisse. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. On connaît le vers de Baudelaire, si important pour Benjamin. Le 19e siècle, dit-il, bouscule, bouleverse Paris. Le flâneur, c'est celui qui s'éveille, se réveille, tente de se déprendre des illusions et des fantasmagories que le commerce entretient autour de lui. Bruno Taquels, depuis sa Colombie, où il parle maintenant l'espagnol.
Le mot flânerie en français est assez trompeur. On a l'impression d'une activité un peu légère, comme ça. Le mot espagnol est magnifique. Callejear. Callejear, c'est littéralement faire la rue. C'est-à-dire faire le trottoir. Callejear est vraiment un terme qu'on utilise pour désigner ce que font les prostituées. Et il y a ça dans le concept de Benjamin. Callejear, flâner, c'est arpenter la ville de telle manière que on n'y fait pas ce qu'il faudrait y faire. Qu'est-ce qu'on fait dans une ville? On va d'un point A à un point B et on est productif. On fait quelque chose. On va quelque part. On a une activité. La flânerie n'a aucun but. Que fait le flâneur? Rien. Absolument rien de productif, rien qui soit mu par un objectif. Il se laisse manger par les ruelles, il se laisse attraper par un passage. Et il va exactement là où c'est pas le Maine, et là il fait des découvertes.
Mais quand on est dans un passage, on a des vitrines, on a des commerces dans les passages, on est quand même attiré, même si on cherche à s'en déprendre, par la marchandise. Quand on flâne, si on peut flâner, sur le net, il y a un petit peu le même phénomène. Vous êtes attiré par des publicités, vous êtes attiré par des objets ou des propositions qui vous sont faites contre argent sonnant et trébuchant.
J'ai un peu du mal avec ce monde digital, parce que c'est une autre flânerie. C'est pas celle de ma génération. Mais je vois bien que les jeunes gens flânent dans le monde digital, comme moi je flâne dans les livres, dans les librairies, ou dans les rues. C'est un exercice que je suis en train de m'imposer, c'est d'apprivoiser ce monde digital, que je trouve à la fois magique et infernal. C'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a une double face permanente. Le fait qu'on puisse se parler à 10 500 km de distance, comme si j'étais dans un studio parisien, montre bien qu'il y a de la magie dans tout ça. Mais il y a aussi un enfer qui se prépare. Il y a vraiment un enfer digital, et il y a une sorte d'impréparation à cet enfer, il me semble.
Peut-on flâner sur le net comme dans un passage commerçant du 19e siècle éclairé au gaz ? Les séductions et les pièges sont un peu les mêmes, mais les dimensions ont bien changé. 1900, le travail nous laissait peut-être 5 fois moins de temps de cerveau disponible qu'aujourd'hui. Et savez-vous combien de fois nos doigts, et non plus nos pas, comme dans le cas du flâneur, nous poussent vers l'écran de notre téléphone? 221 fois par jour, en moyenne. Benjamin avait d'ailleurs perçu cette importance de la question de l'attention. Elle se pose en d'autres termes aujourd'hui.
Monsieur Lebrun, le dernier texte de Walter Benjamin portera sur sa conception de l'histoire.
Oui, après la déclaration de guerre, il a été interné en tant que sujet allemand, un moment à Colombes, puis près de Nevers. Libéré, il a pu passer encore quelques mois à Paris avant de devoir fuir à l'arrivée des Allemands. C'est dans cette période inquiète qu'il a rédigé le texte que vous évoquez, inachevé, comme une allégorie de son œuvre et consacré à l'histoire. La clé s'en trouve dans une œuvre, l'Angelus Novus, acquise après la Première Guerre à un moment où il caressait le projet d'une revue qui aurait porté le même titre énigmatique. Pierre Bouretz.
L'histoire de l'ange, elle est très belle. L'histoire de l'ange, c'est un dessin de Paul Klee, dont il existe plusieurs versions, y compris sous forme de dessin, sous forme du... Et puis une petite aquarelle que Benjamin avait achetée juste au lendemain de la guerre, donc qui représente un ange, les ailes déployées et dos tourné. Voilà, donc il achète ça un jour, et puis il le montre à ses amis, et ça devient un peu une figure allégorique dans le monde commun de Scholem et Benjamin, par exemple.
Il existe un tableau de clé qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé, là où nous apparaît une chaîne d'événements. Il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.
C'est devenu une figure, une allégorie de l'histoire, avec l'idée que cet ange qui tourne le dos, c'est... Il essaye d'arrêter le temps, Il essaye de contenir le temps, il essaye de faire qu'on se remémore le passé, ça c'est la dimension juive, puis malgré tout le vent, l'histoire souffle dans l'autre sens, ça c'est plutôt la dimension marxiste des choses, il y a malgré tout un vent de l'histoire qui va quelque part, qui aboutira à quelque chose qui s'appelle une révolution et à une société nouvelle.
Il a les yeux ouverts, l'ange ?
Il a les yeux écarquillés, oui, il a les yeux...
Écarquillés.
Voilà, écarquillés. Il a les yeux grands ouverts.
Et c'est un point de départ pour parler de sa conception de l'histoire qui passionne beaucoup aujourd'hui.
Oui, ça peut être un des points de départ pour parler de sa conception de l'histoire parce que, oui, il y a bien cette idée que cet ange, il a les yeux écarquillés, il regarde, il est tout disponible, mais il est tourné contre ce vent de l'histoire, donc... Est-ce qu'il essaye d'arrêter le progrès ? Est-ce qu'il essaye d'opposer au progrès qui va vers le pire un arrêt du temps ou même une sorte de retour en arrière par la remémoration ? Ou bien est-ce que, bon, c'est malgré tout, le progrès continue. Là, on est au cœur du conflit d'interprétation du sens de l'histoire. Voilà, hein, on peut le dire comme ça. Il y a un sens de l'histoire... dont on voit bien que c'est une histoire séculière, dans laquelle il n'y a plus rien qui soit transcendant. Chez Marx, ça devient une histoire, une dialectique de la matière. Ça va quelque part, ça a un terme, ça a un endroit où ça doit s'interrompre, où ça donnera l'abolition de la société telle qu'elle est, la création d'une société nouvelle. Bon, il y a cette vision-là, et puis il y a la vision juive de l'histoire, qui elle-même est... à ses propres tensions d'ailleurs. Il y a une vision du temps juif qui est une remémoration perpétuelle, et puis il y a la vision qui est celle plutôt de Scholem, qui est celle de la mystique juive, qui est l'idée d'une interruption du cours de l'histoire. C'est ça qui fascine Benjamin.
Progrès, société nouvelle, révolution. Mais ce texte sur la conception de l'histoire, il est écrit après le pacte germano-soviétique de l'été 39, qui a dû mettre dans le plus profond désespoir Benjamin, anti-nazi et longtemps proche des communistes. Quant à la conception du temps juif, si le progrès ne laisse qu'un amoncellement de ruines et de déceptions, reste l'ange qui veille sur le maintenant. Le maintenant, c'est une nouvelle catastrophe, mais d'où pourrait surgir l'étincelle. On ne sait jamais à l'avance comment le salut peut advenir. Le 26 septembre 1940,
ça s'est passé à presque rien, à des hasards. Benjamin était réputé pour sa timidité et son goût de la solitude. Ses compagnons de traversée des Pyrénées pour aller vers l'Espagne lui ont laissé une chambre seule dans l'hôtel où ils étaient. Et il a pris la dose de morphine qu'il avait prévue pour ça. Et on l'a retrouvé mort au matin. Et Arendt dit très très bien que ça s'est joué à presque rien.
Remerciements à Pierre Bouretz, à Philippe Simet, à Bruno Takels depuis sa Colombie. Lecture, Hugues Kester. La prise de son, Yann Fressy et Raymond Alboui. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard. À la maison de Radio France, à la technique, Marie Lepeintre. Et la réalisation, Audrey Ripouille.